Le journal vous est présenté par Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Laura, bonjour à toutes et à tous. Des lits supplémentaires et surtout de l'argent pour les soins palliatifs. Un mois après les annonces sur l'aide à mourir, le gouvernement français complète son projet sur la fin de vie. À la rescrousse des jeunes virés de leur logement à l'approche des Jeux Olympiques, les étudiants d'Île-de-France protestent contre la réquisition de leur résidence. Rupture diplomatique entre le Mexique et l'Équateur après l'arrestation d'un ancien président réfugié dans l'ambassade de Quito. Et puis du prosélytisme à grande échelle à quelques mètres du Stade de France, la Scientologie installe son siège à Saint-Denis. On en parle avec Marie Drillon, vice-présidente de l'Union des associations de défense contre les dérives sectaires. 1,1 milliard d'euros sur 10 ans pour les soins palliatifs. C'est l'annonce de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, dans les colonnes du Monde ce matin. Cet argent, il va notamment servir à ouvrir des lits supplémentaires dans les unités concernées dès l'année prochaine. Une partie de l'enveloppe sera également consacrée à la prise en charge des soins à domicile. Bonjour Jeanne Serrin.
Bonjour.
Comment ces annonces sont-elles accueillies par les professionnels de santé?
Eh bien, ils saluent d'abord une enveloppe budgétaire à la hauteur des besoins, un effort inédit selon la présidente du Centre national pour les soins palliatifs et la fin de vie, Sarah Doshi.
C'est un formidable message de soutien vers toutes les personnes qui travaillent en soins palliatifs. On a aujourd'hui une société où on parle de la fin de vie. Je pense que c'est une très belle évolution sociétale et j'espère que ça va continuer parce que améliorer la fin de vie, c'est non seulement améliorer l'accès des personnes aux soins palliatifs, mais c'est aussi en parler tôt.
1,1 milliard d'euros de plus en 10 ans, cela représente donc 100 millions d'euros chaque année qui serviront à atteindre deux objectifs. D'abord, améliorer l'accès à des structures, créer des unités de soins palliatifs dans les départements, il n'y en a pas encore aujourd'hui, soutenir les maisons d'accompagnement ou encore les équipes mobiles. Mais l'autre axe majeur de ce plan décennal concerne la formation, une donnée essentielle à prendre en compte selon Vincent Morel, chef du service des soins palliatifs du CHU de Rennes et ancien président de la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
Non seulement il faut que des personnes aient accès à des structures spécialisées, mais il faut aussi que les professionnels qui les prennent en charge au quotidien soient formés aux soins palliatifs dans une approche, j'aurais envie de dire, plus moderne, où on va intégrer cette démarche de l'accompagnement et des soins palliatifs de façon beaucoup plus précoce. Car on sait aujourd'hui que lorsqu'on intègre précocement des soins palliatifs, les personnes vont vivre non seulement mieux, avec une meilleure qualité de vie, mais en plus, ils vont vivre plus longtemps.
Et pour faire évoluer cette formation, la ministre Catherine Vautrin souhaite créer une spécialité médecine palliative et d'accompagnement pour les futurs étudiants. Une manière aussi de rendre cette filière plus attractive, alors qu'aujourd'hui, 30% des postes dans ces structures de soins restent non pourvus.
Merci Jeanne Serrin. Dans l'agenda du gouvernement également, cette visite de 3 jours sur le continent africain, le ministre des Affaires étrangères est attendu au Kenya aujourd'hui avec un programme centré sur la défense de l'environnement. Demain, Stéphane Séjourné sera au Rwanda pour la commémoration du génocide des Tutsis. C'était il y a 30 ans. Des milliers d'étudiants chassés de leur logement à l'approche des Jeux Olympiques. Ils sont 3200 à devoir libérer leur résidence universitaire. Résidences qui vont servir à héberger les pompiers, les policiers, les soignants mobilisés pour les Jeux Olympiques. En théorie, les étudiants doivent être relogés dans d'autres résidences en Île-de-France, mais la plupart n'ont toujours aucune nouvelle du Crous. Thomas Pinaroli.
Les étudiants ne savent même pas s'ils pourront finir leurs examens. Maxime fait sa dernière année en école d'architecture. Sa résidence va servir de caserne à des CRS pendant les Jeux Olympiques, alors que lui doit passer son jury de fin d'études.
Concrètement, on n'a pas le temps de déménager. Enfin, déjà qu'en temps normal, lors de ses diplômes, souvent on n'a pas le temps de dormir. On n'aura pas le temps de déménager non plus. Il y a des personnes qui ne sont pas sûres de pouvoir faire un stage parce qu'elles ne sont pas sûres d'être d'où elles seront relogées. Il y a des personnes qui doivent du coup interrompre leurs alternances.
Le Crous, lui, tient à rassurer. Chaque cas est géré individuellement et les relogements vont commencer. Le directeur général du Crous de Paris, Thierry Béguet.
Nous avons programmé une première vague de déménagement qui va débuter la semaine prochaine et qui va concerner à peu près 80 étudiants. Et donc, on peut assurer que tous les étudiants seront relogés dans le Crous de Paris.
Mais où précisément les étudiants craignent de se retrouver bien loin de leur résidence actuelle.
Là où on n'avait pas besoin de transport avant, maintenant on en a besoin. On se retrouve encore à payer plus et tout le monde est tellement concentré sur les JO qu'on ne prend pas en compte ce qui se passe réellement dans la visite des étudiants au Crous.
Et Maxime prévient, sans relogement, les résidents Crous ne pourront pas rester à Paris. Les loyers du parc privé sont beaucoup trop élevés. Des étudiants qui jugent aussi ridicule les 100 euros de compensation promis par le gouvernement.
Une manifestation est prévue cet après-midi à Paris à l'appel du collectif La Rescrousse à 14h devant le ministère des Sports. Il est de ces appels qui font avancer les choses et celui de Washington à Tel Aviv en fait partie. C'était jeudi soir, Joe Biden visiblement très irrité par l'attitude d'Israël ces derniers jours s'est entretenu avec Benjamin Netanyahou. Ce dernier s'est dit surpris par le ton du président américain. Mais résultat, ce week-end, les choses commencent à bouger. Précision depuis Jérusalem avec Michel Paul.
Quelques heures seulement après cette conversation téléphonique sous forme d'ultimatum du président américain Benjamin Netanyahou, l'armée israélienne a publié son rapport sur la frappe qui a provoqué la mort des 7 humanitaires, une grave bavure qui aurait pu être évitée, conclut une enquête interne qui fait état d'une série de carences à l'origine de ce drame. Des mesures ont été adoptées pour permettre l'identification de nuit des véhicules appartenant aux organisations humanitaires et pour la première fois depuis le début de la guerre, une décision disciplinaire a été prise, le limogeage de 2 officiers du grade de colonel et de commandant et aussi des blâmes pour plusieurs officiers de haut rang, dont 2 généraux. Par ailleurs, Israël va permettre désormais l'acheminement de l'aide humanitaire via le port israélien d'Ashdod, situé à quelques dizaines de kilomètres seulement de la bande de Gaza, et surtout la réouverture du point de passage d'Erez à la pointe nord de l'enclave palestinienne. Toujours à la demande de Joe Biden, le chef du Mossad et celui du Shin Bet, la sécurité intérieure israélienne, se rendent en principe au Caire aujourd'hui pour une rencontre avec le chef de la CIA et les autres acteurs de la médiation entre Israël et le Hamas, un sommet du renseignement dans la capitale égyptienne qui pourrait finalement permettre de débloquer la négociation.
Et par ailleurs, l'armée israélienne annonce avoir récupéré le corps d'un otage enlevé le 7 octobre. La mère de l'otage avait quant à elle été libérée lors de l'échange de prisonniers à la fin du mois de novembre. Sur le front de la guerre en Ukraine, une attaque de drones russes sur la ville de Kharkiv dans l'ouest de l'Ukraine a fait au moins 6 morts et 10 blessés la nuit dernière. Toujours ces drones de fabrication iranienne, selon le maire de la ville, qui ont visé des bâtiments résidentiels ainsi qu'une station-service. 3 membres présumés du groupe État islamique arrêtés par la police iranienne près de Téhéran. Ils sont soupçonnés de vouloir préparer un attentat lors de la fête de fin du Ramadan. L'agence IRNA mentionne également l'arrestation de 8 de leurs supposés complices. La tension monte d'un cran en Amérique du Sud. Le Mexique rompt ses relations avec l'Équateur après une intrusion de la police équatorienne dans l'ambassade mexicaine à Quito. Les forces de l'ordre ont arrêté l'ancien vice-président Jorge Glass, qui avait trouvé refuge dans l'ambassade. On fait le point avec notre correspondant à Quito, Eric Sanson.
Cela faisait plus de 24 heures que les autorités équatoriennes avaient renforcé la présence de policiers autour de l'ambassade mexicaine. Tard dans la nuit de vendredi, ces derniers sont passés à l'action. Ils ont défoncé la grille d'entrée avec leur voiture et ont investi l'ambassade, n'hésitant pas à malmener le chargé d'affaires qui protestait contre leur intrusion. Les policiers ont fouillé l'ambassade pour y arrêter l'ex-vice-président équatorien Jorge Glass, qui avait trouvé refuge le 17 décembre dernier. Ce proche de l'ex-président Rafael Correa a été rapidement et discrètement exfiltré des locaux de l'ambassade. Son arrestation a été confirmée peu après. C'est d'ailleurs au nom de la lutte contre l'impunité que le gouvernement équatorien a justifié la violation d'un principe diplomatique sacro-saint, l'inviolabilité d'une ambassade. Dans un communiqué aux termes inhabituellement durs, Quito a indiqué que le Mexique avait abusé de ses droits et privilèges en donnant l'asile à un délinquant de droit commun condamné par la justice. Pour cette raison, Quito avait d'ailleurs expulsé cette semaine l'ambassadrice mexicaine, déclarée persona non grata.
Éric Sanson à Quito pour France Culture. 1,5 million de dollars pour un livre, c'est beaucoup. Mais ce n'est pas n'importe lequel. Il s'agit d'un exemplaire de Breakfast à Tiffany's. Mais celui-ci est couvert de diamants, 1035 diamants et un saphir émeraude, pour être précis. C'est le seul exemplaire signé de la main de Truman Capote. Un immense bâtiment vitré sur 5 étages aux portes de Paris et à 300 mètres du Stade de France. L'église de Scientologie inaugure aujourd'hui son siège, son grand centre parisien. Sont attendus des adeptes, des ministres, comme sont appelés les directeurs d'office dans le milieu, et puis des personnalités, notamment Tom Cruise, l'un des visages les plus célèbres de la Scientologie. Pour rappel, le mouvement est considéré comme une secte par plusieurs parlementaires, puisqu'il promeut, entre autres, des pratiques de développement personnel sans aucun fondement scientifique. Bonjour Marie Drion.
Bonjour.
Vous êtes vice-présidente de l'UNADFI, collectif de défense des familles et des personnes victimes de dérives sectaires. Comment ça se fait qu'un mouvement comme la Scientologie puisse s'installer en France de manière aussi officielle ?
Bien, écoutez, l'Église de Scientologie a fait l'acquisition de ce bâtiment à Saint-Denis, sur lequel elle avait des vues depuis plusieurs années. Dans les règles, la municipalité de Saint-Denis, qui n'était pas enchantée de cette arrivée, a essayé d'empêcher cette installation, mais n'a pas réussi. Voilà. Pour le mouvement, c'est une opération commerciale d'envergure, évidemment, à l'américaine, quoi. Et ça va lui donner une visibilité pendant un temps, en tout cas. C'est à l'image des inaugurations d'autres centres. En Espagne, ils ont fait ça en 2004 au centre de Madrid. À Bruxelles, c'est rue de la Loi, à côté des institutions européennes. Voilà, pour eux, la vitrine est importante. Et là, ils profitent de l'événement des Jeux Olympiques qui va donner une visibilité pendant toute cette période, étant donné la proximité du Stade de France.
Vous parlez de grosses opérations commerciales. Pourtant, on lit ça et là que ça n'est pas à Saint-Denis que la Scientologie va forcément trouver son public, notamment parce que leur formation, leurs méthodes sont assez onéreuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ils fonctionnent ?
Alors, la Scientologie, c'est une organisation américaine, hein, fondée par Ron Hubbard, qui était auteur de science-fiction, cette organisation, elle a pour but de diffuser les principes et la méthode qu'il a inventée. La Dianétique, ça s'appelle, et qu'il nommait la science moderne de la santé mentale. Donc, en France, elle est sous forme d'association 1901, dont l'objet est la propagation de la religion de Scientologie à travers les enseignements, les préceptes définis par Ron Hubbard dans ce qu'ils appellent les écritures, c'est-à-dire tous les textes écrits et les conférences de Ron Hubbard. Alors, quels moyens ? Ben, les moyens, c'est pour faire de nouveaux adeptes, ils sont très très variés. Distribution, ça commence déjà d'ailleurs autour à Saint-Denis, d'après ce que j'ai compris. Distribution de livrets, le chemin du bonheur, les dépliants non à la drogue, présence sur certaines manifestations sportives. Ils sont présents sur les lieux de catastrophe en proposant leurs techniques. Et puis, ils font un prosélytisme assez intense à travers des propositions diverses, soit d'ordre développement personnel thérapeutique, gérer son stress, passer le test de personnalité pour voir si on pourrait pas avoir une efficacité bien meilleure, cours de dessin, cours de musique, cours de théâtre. Et tous ces procédés s'appuient sur la méthode dianétique inventée par Ron Hubbard. Alors, quand on accepte, parce qu'on est tenté, hein, ils savent présenter les choses bien, quand on accepte, on rentre dans un processus qui va vous lier de façon importante, parce qu'il est exigeant, parce qu'il coûte cher. Et moi, quelquefois, si vous voulez, quand on a dépensé de l'argent, déjà sur les premiers cours, on n'a pas envie d'arrêter, donc on va éventuellement continuer. Avec un processus qui se déroule par niveau et des promesses d'amélioration qui sont probablement addictives. Mmh. C'est un genre de méthode de développement personnel, si vous voulez, mais dont le but est de vous faire devenir scientologue et non de vous faire gagner votre autonomie. Voilà, il faut quand même le savoir.
Comment est-ce qu'on peut faire pour faire face à ce genre de prosélytisme sans déroger aux libertés garanties par l'État français ?
Bien, il faut une vigilance et une information, ce que nos associations comme la Vigilud font avec de l'information préventive, beaucoup, et ne pas s'arrêter à la vitrine, si vous voulez. Il faut prendre l'habitude, quelles que soient d'ailleurs les méthodes proposées et les offres très séduisantes, d'aller voir ce qu'il y a derrière, de se renseigner sur la Scientologie. Il y a énormément de choses qu'on peut trouver sur Internet. Des anciens adeptes, quand ils ont pu, parce que la Scientologie n'aime pas les critiques et cherche à les faire taire, mais quand ils peuvent, ils ont écrit, on peut très bien savoir ce qu'il y a derrière. Je pense au dernier livre de Lucas Le Gall, Un milliard d'années, là, qui lui était rentré enfant dans le mouvement, et donc avec ses parents, et qui est resté jusqu'à 18 ans avec des responsabilités importantes. Donc c'est vraiment, les autorités surveillent, c'est évident. Et puis en France, il faut savoir que la Scientologie a eu des condamnations en justice. Une fois à Lyon, enfin plusieurs, mais dont une assez importante à Lyon, où les magistrats ont quand même parlé de véritables manipulations mentales, et puis en 2013 à Paris, où elle a été condamnée pour escroquerie en bande organisée. Donc les autorités surveillent, c'est certain, et du coup, voilà, mais elle ne peut pas interdire, on n'a pas de raison d'interdire, on est dans un pays de liberté, liberté d'association, et donc c'est à nous, citoyens, de savoir que la liberté, elle permet aussi à des personnes qui n'ont pas forcément de bonnes intentions de se présenter et de flatter.
Merci donc de la vigilance et de la prévention. Merci beaucoup Marie Déon d'avoir été l'invitée de France Culture ce midi. Juste un mot du temps avant de refermer le journal. Journée particulièrement chaude sur l'ensemble du territoire. Les températures cet après-midi sont comprises entre 15 et 30 degrés.